Tom, alors, Erev Tov les Koulam, je vous ai donné, c'est bon, il y a des feuilles pour tout le monde. On est bon? Yofi. On est bon?
Il y a quelqu'un qui a un son, je sais pas, c'est ce que je dois dire. Est-ce qu'on peut m'enlever le son? Mais je sais pas, il y a personne dedans en fait.
Je sais pas pour qui c'est, mais.
C'est d'ici.
C'est pas le deuxième, j'ai quitté.
Non, celui-là, c'est pas le zoom, celui-là.
Là, je pense que c'est bon.
Mais bon, top. Non. Ok. Alors, je voudrais voir avec vous une notion qui est fondamentale. Et c'est pas du tout parce que c'est un cours avec des jeunes femmes qu'on fait ça, parce que c'est pas du tout pour les femmes en particulier. Je pense que c'est une notion qui est centrale dans le renouveau d'Israël et qu'il faut aborder tant chez les hommes que chez les femmes, parce que ça nous concerne tous. Okay. Et donc le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la notion de beauté, la notion du yofi bayahadut, et surtout bezman hageula. On va essayer de voir, est-ce que il y a une place à la beauté dans le judaïsme? Est-ce que c'est un idéal? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut tempérer? Et est-ce que ça change si on est en exil ou si on est bezman shel geula? D'accord? Entre parenthèses, on étudie en français ou en hébreu? Comment ça marche ici?
En français.
En français. Alors on y va. Et on va commencer par vous poser la question. Puisque comme on est juif, on répond à une question par une question. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Le judaïsme, il prône la beauté? Il prône de mettre en avant des atouts esthétiques? Ou est-ce qu'au contraire, le judaïsme, il est plus en mode on va cacher cette beauté-là? Est-ce qu'on met en avant l'esthétique ou est-ce qu'au contraire, on décide de mettre en arrière, en recul, l'esthétique?
Les deux.
Ben les deux, c'est une réponse de juif, ça. Marloquette. Hein, c'est Marloquette. Alors regardez, dans la source numéro 1 de la feuille, c'est la Gemara dans le traité de Nedarim à la page 50, Amoud Bet, on nous raconte une histoire sympathique. Amralei bat Kaysar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc on a ici un rabbin qui avait l'habitude d'être balabait à Rome et il allait voir la fille de César. Pas César Jules, mais de l'empereur romain. D'ailleurs, il y a fort à penser que ce n'était pas vraiment la fille de l'empereur, ce n'était pas vraiment l'empereur, mais que c'était juste un haut dignitaire romain. Quoi qu'il, elle lui a dit comme ça. Torah mefoara bekli mechoar. Oui, parce que Malasot, Rabbi Yoshua ben Hanania était... moche. Genre moche, moche, c'est-à-dire la méhadrine. Il avait un œil qui allait là-bas, le nez il allait là-bas, c'était moche de haut niveau, quoi. Et donc elle a dit quoi? Torah, mefoara, bekli, mechoar. Une telle sagesse, une telle Torah dans un ustensile tout moche. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yoshua ben Hanania? Amarle, lemdi mi bet avuch. Tu sais quoi, je vais t'apprendre de ce qui se passe dans la maison de ton père. Dans quoi garde-t-il son vin? Amalo, bemay de farcha. C'est-à-dire qu'il garde son vin dans des amphores, en quoi? En
bois.
Pas en bois, on n'a pas encore l'habitude d'être en France et d'avoir des fûts en bois et tout, de chêne, et la classe. Non, c'est des amphores en argile. Ok, becheres. Amar la kule alma befachra ve'atun b'mayne de fachra atun echitun b'mayne de kaspa. Et franchement, tous les gens gardent leur vin dans des amphores en argile, ok. Mais vous, la famille royale, César, allô. Donc peut-être que vous, ça vaudrait mieux de mettre dans des amphores en argent. C'est plus beau. Comme on dit en arabe, passt nicht. C'est-à-dire, ça se fait pas. Bah, le roi, il va avoir des enfants en argile. Elle dit, ah, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Donc, elle est partie chez papa. Elle a dit au serviteur de papa, on change tout. On change tout. Et vous mettez tout dans des enfants en argent. Makara. Bah, ça a abîmé le vin, ça a tourné. C'est devenu de la piquette. Alors, elle est revenue voir Rabbi Yoshua ben Hanania. Elle lui a dit, nous, bébête. Ah, c'est ce que tu m'as dit de faire. Elle a dit, maintenant, t'as compris. Si le cli, il est trop beau, eh bien, il est mécalquel le contenu. Parce qu'on va se focaliser sur le contenant, et donc ça rend mauvais le contenu. Donc tu comprends, moi, je suis très très moche, mais c'est justement pour ça que je suis Talmid Chacham. Ok, première histoire. D'après cette histoire de la Gemara dans Medarim, est-ce qu'on met l'accent sur la beauté? Bah non. Adéraba, plus t'es moche, mieux c'est. Ça vous va? C'est bon, c'est besader? Yesh
bezemachou, j'en
sais. Yesh bezemachou, tu vois, on a déjà.
Oui, mais. On attend la suite.
Oui, mais non, quoi? Non, ça tu dis autre chose. Toi tu dis le Talmid Chacham il doit pas être sale parce qu'il doit faire, il y a une dimension de kavod. On l'a dit, il faut t'habiller bien, faut être mais kavod propre, ça veut pas forcément dire beau.
Mais non, mais on voit aussi nos imams, on parle d'elles par leur beauté aussi, on les décrit par leur beauté.
Ah, toi tu viens mis une kushia du Tanakh, de la Torah. Et tu dis que finalement c'est pas bien la beauté, mais on voit que pour les Imaot, et pas que les Imaot d'ailleurs, il y a plusieurs personnages, même des garçons, qu'on met en avant leur beauté. Alors David Ameler, Dafka, on dit juste qu'il a des beaux yeux. Mais bon, ça passe aussi, pourquoi pas. Mais il y a effectivement Yosef Hatzadik, évidemment, et on a. Non, ça ne fait pas partie des critères. Ah, non, encore une fois, il a des beaux habits. Les habits du Kohen Gadol, ils ont un objectif. C'est pas de le rendre beau. C'est qu'il pète la classe.
On choisit pas d'être.
Le Kohen Gadol, il a marqué les chavod ou le tifaret. C'est-à-dire que le but du Kohen Gadol, quand il est là avec ses habits d'apparat, c'est que les gens, ils le voient, ils disent, waouh, ah, ça, c'est notre Kohen Gadol. C'est pas tant une question de beauté. C'est une question de waouh, c'est bling bling. Ça a l'air? Maintenant, lâchez-la, Bamet. Tu dis, il y a plein de gens qui sont appelés des tzadikim, qui sont appelés Dafka, beau ou belle. Alors, est-ce que ça ne contredirait pas notre histoire?
Oui. Alors, en Égypte, justement, je crois que c'est au vent que les miroirs, on disait que les femmes, justement, continuaient à se faire belles.
Oui, mais attention, elles voulaient plaire à leur mari. On peut dire, oui, mais ça, c'est dans l'intimité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va prôner à l'extérieur ou est-ce que c'est uniquement du domaine de l'intimité? Ça aussi, c'est une question.
C'est pas vraiment la beauté qui nous traits du visage. C'est pourquoi une femme qui veut se faire jolie.
Qui veut se faire jolie.
C'est comme un habit, je veux dire.
Qui veut se faire jolie. C'est l'esthétique.
Ah, donc ça veut pas.
Les miroirs. Non, les miroirs dans ton
tableau.
Belle, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu entends dans la notion belle? C'est ça le problème. Parce que quand je dis belle. Toi, tu te dis, attends, belle, beau, ça veut dire, on a intuitivement le dit, non, c'est un truc, ça doit être en rapport avec sa neshama, c'est un truc pnimi. Non, yofi.
Mais yofi, c'est quoi? C'est être propre et soumis.
Non, on a dit propre, non. Propre, c'est le kavod. Yofi, esthétique. Maintenant, je suis d'accord avec toi que ça va peut-être varier en fonction des époques, mais à une époque donnée. C'est-à-dire, on dit tout le temps, non, on ne peut pas, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à une époque donnée, il y a des critères d'esthétique qui sont reconnus et acceptés par tous. Après, dans les détails, il y en a un qui va préférer une brune, une blonde, machin. Mais les critères de beauté, il n'y a qu'à voir les tableaux de femmes qui sont représentées dans la Renaissance, ce n'est pas du tout le même critère de beauté qu'on a au XXe siècle, qu'on a au XXIe siècle. C'est-à-dire que les critères de beauté généraux, ça va changer, ça va évoluer. Mais dans une époque donnée, il y a oui un critère. D'accord? Donc, ici, la question est de savoir, est-ce qu'on met sur un piédestal l'esthétique ou pas? D'après la Gemara dans les Darim, on voit que pas du tout. Que plus t'es beau, plus c'est dangereux pour le contenu, et plus t'es moche, et plus ton contenu il va pouvoir être bien. Évidemment que ça nous fait hérisser de partout, parce que non, j'ai pas envie de penser que c'est vrai. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans la source numéro 2, Perek Gimel Mishnah Zain, Rabbi Shimon Omer. C'est qui Rabbi Shimon? C'est quel Rabbi Shimon en question? Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Hamealech baderech veshoneh. ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה פת פת אנשים עוקב גימל זה סתם מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו עלה לסישור רבי שמעון נו די כלכן כי הם מעלר בדרך ושונה il est en train d'étudier en marchant et il s'arrête de son étude pour dire waouh quel bel arbre waouh quel beau bâtiment keilu mitrayev benafsho c'est comme s'il était passible de mort le mec il s'est émerveillé de quelque chose d'esthétiquement beau Rabbi Shimon dit il devrait être passible de mort celui-là on est en train de partir vraiment dans un hein C'est Akadosh Baruch Hu, t'as vu c'est fou, hein. Donc là, on va vraiment dans un kivoud, sois moche et tais-toi, quoi. Est-ce que c'est le judaïsme ? Eh bien, c'est l'agdola. D'un autre côté, on a d'autres enseignements qui nous sont amenés dans la Gemara. Dans la Gemara, dans Maseret Brachot, dans la source numéro 3, à la page 5, on raconte une autre histoire. Rabbi, on dit que Rabbi Elazar, Khalash. Donc, il était tombé malade, Rabbi Elazar, et donc est venu lui rendre visite Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, Khalash, Al-Gabe, Rabbi Yochanan, Chazedehu, Kai Gane Bebeit Afel. Quand il est arrivé, Rabbi Yochanan lui rendre visite, il a vu que la maison de Rabbi Elazar était dans l'obscurité. Il n'avait pas allumé de bougie, rien du tout. גליה לדראיה ונפל נהורה חזיה דאבה קאי בכי רבי אלעזר quand il est arrivé donc il y avait pas de lumière qu'est-ce qu'on fait quand il y a pas de lumière on allume la lumière donc comment on fait nous les gens normaux pour allumer la lumière ouais on a pris ce bouton mais à l'époque on aurait fait quoi on aurait pris une bougie on allume une torche machin. Non ça c'est pas très Rabbi Yochanan il a une autre technique il a relevé un petit peu sa tunique, qui a laissé apparaître son genou, et était tellement beau, Rabbi Yochanan, que le simple fait d'avoir monté sa robe pour voir son genou et sa cuisse, ça a éclairé toute la pièce. Après, quand peut-être qu'il était en contact avec des substances radioactives, et qu'après, le mec, il illumine, on ne sait pas. En tout cas, voilà, il a illuminé tout le truc, et Rabbi Elazar le voit, et quand il le voit, il se met à pleurer. Il m'a pleuré. Chazedehu kave bechi Rabbi Elazar. Amarle, amai kai bechit. Pourquoi tu pleures? Donc c'est Rabbi Yochanan qui dit à Rabbi Elazar pourquoi tu pleures? Imishum Torah. Peut-être que c'est à cause de la Torah que tu n'as pas assez étudié. Non. Il fait un monologue. Rabbi Yochanan dit non, ce serait à cause de la Torah. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas la peine parce qu'on étudie comme on peut étudier. Chadam arbe ve chadam amit. C'est-à-dire, tu as étudié ce que tu pouvais étudier à Kolbesed. Ayakia, Ikar, Sheikhaven, Nibola Shamaim. C'est-à-dire, ne te prends pas la tête avec ça. Veimishum, mezone. Lokol Adam Zoché, l'Echtej ou l'Chanot. Parce que tu n'es pas riche. Il n'y a pas de quoi pleurer de ne pas être riche. Tout le monde n'a pas la chance d'être riche. Alors, peut-être, Mishum, Ken, ou Mishum, Benedin, Garma, de Sheroua. Il dit peut-être que en fait tu pleures parce que tu as eu plein de issourines, plein de problèmes dans ta vie. Ça va, on a tous des problèmes. Et là, Rabbi Elazar, il lui dit non. Il dit ben bon Zach, je pleure. Ah, pourquoi tu pleures? Il dit ben parce que là je viens de te voir. Il y a quelqu'un qui veut faire un FaceTime. Mais on accepte pas, qu'est-ce que tu dis? Hein? C'est Noam. C'est bon? Je sais pas. Kitsour! Et donc, il dit non, c'est pas pour ça que je pleure. Pourquoi je pleure? Je pleure parce que je te vois. Et alors? Eh ben, je vois ta beauté. Et je vois que cette beauté-là, toi aussi, un jour, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, cette beauté-là, elle va disparaître. C'est pour ça que je pleure. Et là, Rabbi Yochanan lui dit ah, t'as raison, ça vaut le coup de pleurer, viens, je pleure avec toi. Donc d'après cette troisième source, là, on met plus en avant le côté beauté. Hein?
C'est vrai qu'on
ne s'en va pas faire qu'il a pleuré avec lui? Ouais. Ah, c'est là, c'est marqué. Hein? Regarde les deux derniers mots. Il y a marqué Bachou Tarvayehu. Et ils ont pleuré tous les deux. Attends, ça vaut le coup. Tu dis, attends, effectivement. Si c'est pour ça que tu pleures, parce que moi je vais mourir et que donc ma beauté va disparaître, oui. Oui, là, effectivement. Ouais, mais quand toi et moi on meurt, ça va, c'est bon, ça passe, tu vois. Mais quand Rabbi Yochanan il meurt, c'est autre chose. Ça a l'air. Donc là, cette Gemara là, elle est clairement pro-esthétique, pro-beauté. Donc on a des sources contradictoires. Je reviens sur le truc de l'esthétique, la beauté, la jolitude. Non, je vais pas te dire, c'est pas de ça qu'on parle.
Ça veut dire quoi? On veut dire qu'on vient avec des bijoux, avec du maquillage.
Ça veut dire beau, ça veut dire joli. Ça veut dire joli. Joli. Après, les apparats pour se faire joli, ça encore une fois, évidemment que ça change d'époque en époque. Donc je sais pas si moi, si j'avais vu Rabbi Yochanan, j'aurais trouvé qu'il est beau. Parce qu'il est possible que les critères de beauté de leur époque, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu vois les bijoux de l'époque de la Torah, et franchement, moi j'achète pas ça à ma femme. J'ai à commencer. Hein, Rivka? C'est comme ça, hein, le nezem. Ouais, le nezem, c'est le truc que tu mets aux vaches. Non, c'est pas le petit machin. Le nezem de la Torah, c'est ouais, ouais. Ouais, c'est le hardcore. Je sais pas, peut-être qu'à l'époque ils trouvaient ça joli. Moi, je suis moins fan, tu vois. Donc, il est possible que les critères d'esthétique de l'époque ne soient pas les nôtres. Mais c'est l'homme chané. Pour chaque époque donnée, il y a des critères d'esthétique. Et là, c'est cela qu'on met en avant dans cette démarche-là. Atkan, ça va? Yofi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein, on avance, alors, parce que pour l'instant, on est en mode un partout, balle au centre, même si on est plus du côté pas esthétique que du côté esthétique. Alors, venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Juste, je vous ai amené dans la Gemara, dans la Seret Baba Metzia, que vous compreniez, quand je vous parle de Rabbi Yochanan qui est beau gosse, la Gemara, elle essaie de t'expliquer « At kama, il est beau gosse. » Hein? Ouais, alors ça, c'est une autre histoire. Je ne voulais pas en parler, mais si déjà... Ouais, ça, c'est chaud. C'est chaud. À l'heure de MeToo, c'est chaud. Non, c'est vrai, effectivement, tu as lancé, la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan, il s'asseyait, il étudiait à la sortie du mikvé des filles. Comme ça, dès que les filles, elles sortaient du mikvé, donc c'était pour retourner voir leur mari, et ben elles le voyaient, et comme ça, elles avaient des pensées de beauté et tout ça, machin, pour avoir des enfants beaux gosses. C'est difficilement... comment dire, ça va être dur pour un rabbin d'expliquer ça aujourd'hui, quoi. Ça a l'air. Il semblerait que vraiment les mœurs étaient différentes à l'époque. Rabbi Yochanan, c'est la première génération des Amoraïm, c'est-à-dire qu'on est au 3e siècle. Ok ? Juste après l'écriture de la Mishnah. D'accord ? Donc, ouais, c'est compliqué. Ça a l'air. Mais bon, la Gemara, elle veut nous expliquer jusqu'où c'était un beau gosse. Et donc, on nous dit comme ça. Que Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Ana Ishtaire Mishapire Yerushalayim. Il était le dernier vestige de la beauté de Jérusalem. Et comment, qui que quoi qu'est-ce? Eh bien, on disait, tu veux savoir ce que c'est la beauté de Rabbi Yochanan? Pas de problème. Prends, je vous le dis directement en français, il dit, tu veux comprendre ce que c'est? Pas de problème. Prends un kos en argent qui vient de sortir de Beth Haoman, c'est-à-dire qui vient de sortir du magasin. Il est tout neuf, tout brillant, incroyable. Dépose-le sur une assiette en argent, elle aussi, toute neuve, toute brillante. Tu déposes tout autour du kos des pétales de rose, bien rose, avec un peu de rosé dessus. Tu remplis le kos de grains de grenade bien mûrs, bien rouges comme ça, et tu déposes le tout dehors, sur le rebord de la fenêtre, à un moment où il y a dans le ciel, tu sais, nuages et ciel bleu, de sorte qu'à un moment donné, les rayons du soleil, vous savez, des fois ça fait comme ça quand il y a des nuages, machin, et que tout d'un coup il y a un rayon de soleil qui passe, et ben, tu vas mettre le kos juste à l'endroit de ce rayon de soleil qui va taper, et tu vas voir que l'éclat que ça va produire, c'est un peu de la beauté de Rabbi Yochanan. Waouh, t'es beau gosse. Bon, après la Gemara continue, elle dit, ouais, mais attends, sache que la beauté de Rabbi Yochanan, c'était un peu de la beauté d'Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, c'était un peu de la beauté de Adam Rishon. Top, nous. Ça y est, Rabbi Yochanan, beau gosse. Alors, Bassader, donc, d'un côté, on nous dit la beauté très important. De l'autre, on dit, Chas v'shalom, si tu peux être moche, c'est mieux. Et là, je pose la question, donc, qui a raison? Quel est le message du judaïsme? Avant de continuer dans les sources et dans le limoud, j'aimerais qu'on prenne deux secondes du recul et qu'on se pose la question au niveau de la réalité du terrain. Quand vous pensez judaïsme, je vais même aller plus loin, judaïsme religieux, est-ce que le premier adjectif qui vous vient à l'esprit, c'est esthétiquement beau? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te balades dans des quartiers, on va dire, à tendance très orthodoxe. Non, on a dit on ne parle pas des gens. Là, on parle du quartier. Là, on parle du quartier. Est-ce que, Bichlal, est-ce qu'on a mis en avant dans les faits, dans le concret, est-ce qu'on met en avant l'esthétique?
Non, chez l'homme, en tout cas, non.
Dans le judaïsme. Et même chez la femme. C'est dans les faits, pas vraiment. D'un autre côté, vous allez me dire, non, mais attendez, il y a, oui, des endroits très jolis dans le judaïsme. Il y a des synagogues magnifiques. Sauf que qu'est-ce que je vais te répondre? Ouais, t'as raison, il y a des synagogues magnifiques. Et plus elles sont belles, et en général, plus elles sont... Alors, moins utilisées parce qu'elles sont d'une autre époque, mais elles étaient surtout d'un courant qui était moins religieux. Alors, pas forcément libéraux, parce que les libéraux, c'est venu qu'il y a 200 ans, mais quand tu regardes les grandes synagogues de la Renaissance italienne, la synagogue de Rome, la synagogue de Florence, c'est une synagogue magnifique. Mais c'était des gens qui étaient complètement aussi assimilés à la Renaissance italienne. Quand tu prends les grandes synagogues consistoriales en France, après, on n'est pas obligé de kiffer le style. C'est un style de cathédrale. Donc il y a quand même un souci d'esthétique. Mais il y avait quand même une grosse assimilation. Je veux dire, qu'on le veuille ou pas, l'écrasante majorité des synagogues consistoriales d'avant-guerre ont joué de l'orgue Shabbat. Donc ça montre quand même un certain niveau Torah. Donc oui, il y a eu un esthétique, mais en fait on voit que cette esthétique là il était plus tourné vers les mondes moins religieux. Et dans les mondes religieux, bah, les synagogues c'était des petits machins en bois où ça grinçait, où il fallait changer le plancher toutes les 5 secondes. Aujourd'hui, quand tu vas dans un shtibler, tu sais ce que c'est un shtibler? C'est une usine à tefila. C'est pas beau le shtibler, quel que soit le shtibler, hein. C'est pas beau. Va dans un mikvé d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, Baruch HaShem, pour les femmes, ils ont un peu plus de soucis de l'esthétique. Mais va dans un mikvé d'hommes, c'est ribono chez l'olam. Il faut vraiment le vouloir d'aller au mikvé. Alors, dans les faits, on voit que oui, le judaïsme a été plus sur un côté que l'esthétique, c'est moyen. Il ne faut pas vraiment s'en occuper. Ah, non, deux secondes, c'est pas vrai ce que tu dis. Dans la maison, tout ce qui est en rapport avec la kedusha, là, on est prêt à casquer. Et le verre en argent, les bougeoirs en argent de 2 mètres de haut, et machin, et les tableaux du rabbin, et le machin. Donc, il y a oui une esthétique, mais on l'a rentrée, on l'a enfermée à l'intérieur de la maison. Donc, il y a une espèce de schizophrénie. L'esthétique, c'est oui important, mais que dedans, pas dehors. Et plus c'est dehors, et plus il faut que ce soit moche. Bizarre, cette histoire. D'autant plus bizarre que quand je regarde maintenant dans la halakha, venez, on va aller un petit peu dans la halakha. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esthétique? Et vous savez quoi, on ne va pas parler des gens, mais de la rue. Vous savez qu'il y a des halakhot sur comment on doit faire le tichnoun bnia veharim, comment on dit en français, le génie civil de comment on va construire une ville. Il nous dit ici, dans la Gemara, dans le traité de Baba Batra, dans la source numéro 5, je vous en ai simplement une, mais il y en a plein. מרחיקים את העילה מן העיר 25 אמה וברחוב ובשקמה 5 אמה 50 אמה, סליחה, אבא שאול אומר כל עילה נצרג 5 אמה. C'est qu'on te donne des lois très claires sur combien il faut séparer les arbres les uns avec les autres et où est-ce qu'il faut les mettre par rapport au début de la ville. Tout ça pourquoi est-ce qu'on me donne des halakhot sur comment doit paraître la ville? Peut-être qu'il s'agit ici de fonctionnalité. Peut-être qu'il y a des raisons fonctionnelles de pourquoi il faut organiser la ville comme ça et comme ça. Et bien, le problème, c'est que non. Nous dit le Ran, Rabbeinu Nissim Migerona, c'est-à-dire un des commentaires de la Halakha, qui suit la Gemara, lui, nous dit le Ran, dans la source numéro 6, « Keivan de Amar Ula de Ta'ama de Matnitin lav Mishum Eizek ou Ela Mishum Noy » C'est-à-dire qu'on nous dit non, c'est pas pour la fonctionnalité. La raison de ces halakhot dans la Mishnah, c'est pour la beauté. Donc la Mishnah nous dit qu'il y a un intérêt à avoir une esthétique au niveau de la ville, au niveau de la maison. Et c'est là que Rabbeinu Nissim, il va balancer une bombe, et c'est là qu'on va commencer à nous décanter notre histoire. Rabbeinu Nissim, il dit, puisque la halakha de faire comme de l'esthétique de la ville, c'est pour l'esthétique et pas pour la fonctionnalité. Alors vous êtes prêts, regardez. Pshita lan davka be'eretz Israël de ilu bechutza la'aretz lo kabdinan anoy dide. Puisque la loi, elle est pour l'esthétique, c'est donc la preuve qu'elle n'est en vigueur qu'en Eretz Israël. Parce qu'en chutz la'aretz, on s'en fiche que ce soit beau. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a une différence dans mon rapport à l'esthétique si on est en Eretz Israël ou si on est en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, il faut que ce soit beau. En Chutz La'aretz, il faut que ce soit moche. Mais en vrai, vous allez voir, ce n'est pas une question seulement de localisation. Parce que nous dit le Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef, à propos de ce que vient de dire le Ran, il dit « Venireli de Av be'Eretz Israël eino noeg bizman hazeh. » שהיא בידי גויים בעוונותינו עד שנזכה לזכות בה. דיר רבי יוסף קארו, la loi de l'esthétique du Noy Haïr, c'est pas qu'en Eretz Israël ou pas en Eretz Israël, c'est est-ce qu'on est soumis aux goyim en Eretz Israël ou est-ce qu'on est indépendant? C'est-à-dire quand on est soumis aux goyim, dehaïnu slash quand c'est l'exil, il faut que ce soit, enfin c'est pas grave si c'est moche. Mais quand on est en Géoula, quand on est en Eretz Israël et indépendant, alors, il y a toutes les halakhot de l'esthétique qui reviennent. Là, je me dis, mais attendez, c'est ouf, ça. Est-ce que ça voudrait dire que... Je ne sais pas, je me pose la question. En Israël, il y a des gens qui pensent qu'on est toujours en exil. Il y a des gens comme ça. Ils se trompent, c'est pas grave. Il y a des gens qui pensent. Je me dis, c'est intéressant parce que si je dois schématiser... Les quartiers dans lesquels habitent les gens qui pensent qu'on est toujours en exil, c'est plutôt moche. Et les quartiers des gens qui pensent qu'on est en Géoula, même s'ils n'appellent pas ça Géoula, parce qu'il y en a qui sont chilonis, mais qui passent pas, ils ne parlent pas en mode Géoula. Mais pour eux, bah, l'esthétique de l'endroit, c'est important.
Mais même par rapport tout ce qui est genre la terre, quoi, ça veut dire quand les Juifs n'étaient pas sur la terre, alors elle ne fleurissait pas, elle n'était pas belle, quoi, rien que la terre.
Tu as raison, mais ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a décidé de faire comme ça, mais tu as raison, c'est très lié. La terre d'Israël, elle était moche quand on n'était pas là. Aujourd'hui, elle redevient belle. D'accord ? Mais maintenant, on va lire le Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer, il va porter le coup de grâce à l'histoire. Il dit le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il y a 200 ans, il dit... À propos de la Gemara qu'on a commencé à étudier sur l'esthétique de l'endroit, dit al korchacha shebizman sheyisrael beeretz Israël ma'ire udebechutz al haaretz tinavel vetinavel. On a dit que la différence de quand ça doit être beau ou pas beau, c'est quand on est en Israël indépendant, quand on est en Galout. Khatam Sofer il dit non seulement ça, mais quand on est en chutz la'aretz bagalout ou alors en Israël mais bezman galout, il faut faire en sorte que ce soit moche. C'est pas stam que on fait rien pour que ce soit beau. Non, il faut travailler pour que ce soit moche.
Là, franchement, on parlait de la terre, de la ville.
Là, on parle de la ville. Mais en fait, c'est notre rapport général à l'esthétique. Maintenant, si on parle de la ville et tout ça, de l'ambiance dans laquelle on vit, le Khatam Sofer te dit, mais pourquoi il faut que ce soit moche? Bah, pas shoot. Pour pas qu'on veuille rester là-bas. Pour pas qu'on veuille rester. Si tu habites dans un taudis et tu habites dans un endroit qui est tout moche et l'ambiance est toute moche, tu n'as pas envie de rester. Mais si au contraire, tu fais un endroit magnifique, extraordinaire, fantastique. Aujourd'hui, il y a des synagogues, des centres communautaires fantastiques qui se créent à Paris.
Avec la maison.
Des maisons, machin. C'est caché. Lama. Ah, je ne vais quand même pas vivre dans... J'ai l'Agdola. Il y a quelques années, j'avais mon beau-frère, ils habitaient à Tel Tzion. C'est Tel Tzion, c'est à côté de Kohav Yaakov. C'est la version charédite de Kohav Yaakov. Et finalement, ils sont partis de Tel Sion et ils ont fait l'Alia à Manchester, Irak Kodesh. C'est là-bas qu'ils venaient et finalement, ils sont retournés là-bas. Officiellement, pourquoi ils sont retournés là-bas? Parce qu'ils avaient des problèmes de Parnassa. Ils n'arrivaient pas à avoir de Parnassa et Baruch HaShem, aujourd'hui, ils ont une très bonne Parnassa. Et donc, il m'a dit, mais qu'est-ce que je te dis? Vous n'avez pas de Parnassa, tu vois bien qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'on reste en Israël. Et là, ça marche très bien en Angleterre. Je lui ai dit, moi, tu me la joues dans tous les sens que tu veux, mais soyons un tout petit peu honnêtes. Tu avais des vrais problèmes de Parnassa quand tu étais en Israël. Rappelle-moi ce que tu faisais en Israël. Bah, rien, j'étudiais la Torah au Kollel. Ah, donc tu avais des problèmes de Parnassa parce que tu ne travaillais pas. Et dis-moi, comment ça se fait que tu n'as pas de problème de Parnassa en Angleterre? Tu fais quoi? Bah, je suis dans l'immobilier. Ah, bah, peut-être que tu as moins de problèmes de Parnassa parce que tu bosses. Je sais pas, je pose la question. Tu vois. Maintenant, il a acheté une maison, crédit sur 20 ans, et a fait une Hanukkah Bayit de folie. Donc nous, on était. C'était pas Zoom à l'époque, c'était encore Skype. Et il me dit, ah, tu me dis pas Mazal Tov? Je dis, quel Mazal Tov? Pourquoi? Parce que tu t'es endetté en galoute pendant 20 ans. Et si demain le Mashiach revient, parce qu'il est Chabad aussi. Je dis, si demain le Mashiach revient, bah, quoi, tu fais quoi maintenant avec ta maison? Tu vas venir? Bah, évidemment, je vais venir. Oui, mais en vrai, tu sais que tu vas pas venir parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a truc, parce qu'il y a machin, parce que... Et en plus, tu vas faire très... Dans toute sa messiba, il a montré comment il a fait très attention. Les lampes, elles sont magnifiques et machin. Khadam Sofer, il te dit, tinavel ve tinavel. Le rapport à l'esthétique, il est déterminé par est-ce qu'on est dans un temps de galoute ou est-ce qu'on est dans un temps de geoula. Il va falloir qu'on essaie de comprendre aussi pourquoi. Ça a l'air ? Oui, vas-y. C'est deux choses différentes.
Oui,
mais... Mitnaged face au chassidisme, c'est... ça n'a rien à voir avec Haredi ou pas Haredi. Non, c'est-à-dire, je veux savoir de quoi tu parles. Ça n'existe pas le monde Haredi à l'époque. Il n'y a pas de Haredi face aux sionistes à l'époque du Khatam Sofer.
Il y en a qui disent que les Mitnaged, après, ça s'est transformé en courant orthodoxe.
Oui, le Khatam Sofer, il ne fait pas partie des chassidim, c'est Nachon. Mais ouais. Ça ne change rien. C'est-à-dire Non, mais lui il est très fan. Il est fan d'Eretz Israël. Il va même dire une tchouva du Khatam Sofer. Il y a un mec d'Eretz Israël qui lui a posé une question. Il répond et il marque un PS à la fin de la lettre. Il dit: au fait, ce que je t'ai répondu, je suis pas encore. Même moi, je suis pas très clair dans ce que je t'ai répondu. Le sujet n'est pas très clair pour moi, mais je n'ai aucun doute que lorsque ma lettre arrivera en Eretz Israël. Grâce à l'air d'Eretz Israël, les choses deviendront plus claires et tu comprendras mieux. Ça, il a un rapport avec Israël qui est très profond. Bekitsour, esthétique ou pas esthétique? Faut être beau gosse, faut pas être beau gosse?
Oui,
Rabotai, il est temps un petit peu d'essayer de comprendre de quoi on parle.
Mais là, par exemple, une ville, Israël et une personne.
Je parle, c'est pour ça que dès le début, j'ai parlé de l'esthétique en tant que telle. De notre rapport à la beauté, qu'il soit pour les hommes ou qu'il soit pour les choses. Et je me rends compte, j'ai amené plusieurs sources pour dire qu'en fait, il y a cette dualité et pour ce qui est des hommes et pour ce qui est des objets. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des avis qui disent la beauté c'est très bien, pour les hommes comme pour les objets, et il y en a qui disent non, c'est pas bien. Et on commence à mettre en avant qu'en fait, cette dualité, elle dépend de, voilà, de où et quand. Parce que Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est pas du tout la même époque. Et Rabbi Yochanan, on t'a dit, il est le dernier vestige de la grandeur de Jérusalem quand il y avait le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il est le dernier vestige d'un temps de Géoula, et donc on met la beauté en avant. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'on parle. Et c'est de ça qu'on va maintenant parler.
Mais là, on est revenu que la beauté en mauvais.
Non, au contraire, Rabbi Yochanan, c'était on met en avant le côté de la beauté. Parce qu'elle allait disparaître. Donc ça veut dire qu'on est très content qu'elle soit là. D'accord ? Donc, on a donc deux avis et il est temps de comprendre qui, quoi, qu'est-ce, qui a raison et quel est l'avis du judaïsme dans tout ça. Je pense que quand on parle de beauté, vous savez tous et toutes qu'il y a une phrase qui est très connue. Que lorsque nos femmes se prépare pendant je ne sais pas combien de temps pour Shabbat, après avoir préparé tout le Shabbat, eh bien, elles se préparent, elles se font très belles, et elles arrivent au repas du Shabbat, et là leur mari, plein d'amour et de respect et de pas moquerie, leur dit droit dans les yeux, chérie, Sheker Achen, Pevel Ayofi. Et toi, tu as pris 3 heures à te préparer. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Chérie, Sheker Achen, Pevel Ayofi. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur ça, parce que Shlomo Ameler, il a poussé le bouchon un peu loin. D'abord, je voudrais vous dire un truc, ne le répétez pas à vos maris. Parce que soit ils le savent déjà, et je préfère vous le dire pour que vous soyez au courant, soit ils ne le savent pas, et ce n'est pas la peine de leur dire. Shlomo Ameler a écrit Eshet Ra'il. Mais vous savez pourquoi il a écrit Eshet Ra'il ? La Gemara nous raconte l'histoire. Je ne voulais pas amener ici, mais la Gemara nous raconte l'histoire. En fait, l'histoire, c'est l'inauguration du Beth Amikdash. Imaginez-vous l'ambiance. L'inauguration du Beth Amikdash, truc de ouf. Maintenant, on est la veille de l'inauguration, ce sera demain matin, on va couper le ruban, premier Korban Atamid, la folie, la shrina, la folie. Il y a une petite ambiance qui s'organise devant le Beth Amikdash, les tzadikim, le Sanhedrin, on fait une petite ambiance sympa. Seulement, au même moment, Shlomo, il n'est pas à la petite ambiance. Parce que lui, il est à un mariage. Son mariage. On est à 500 mètres du Beth Amikdash, dans le palais de Shlomo. Il y a son mariage. C'est son deuxième mariage. La première épouse qu'il avait, c'était Naama. Mais là, il se marie, pas pour des raisons politiques, mais parce qu'il l'aime vraiment. Autant Naama, sa première femme, c'était un mariage politique que les parents ont géré. Mais là, il est fan de sa deuxième femme. Il est amoureux, in love, la folaille. Elle s'appelle... Non. Non, c'est sa mère. Elle s'appelle Bat Paro. La fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Ah, il est in love. Et elle aussi, il semblerait qu'elle le kiffe pas mal. Et donc, gros mariage avec Bat Paro. Et le Midrash nous raconte, et là, c'est repris dans la Gemara, que toute la soirée, il est quand même tiraillé, parce qu'il y a la soirée de son mariage, et puis il y a l'ambiance inauguration Beth Amikdash. Et donc, à chaque fois qu'il essaye de dire « Allez les gars, c'est terminé, machin !» et pour aller s'esquiver au Beth Amikdash, sa nouvelle femme lui dit « Non, mais Shlomke, reste ici, j'ai préparé un nouveau truc pour toi. » Et à un moment donné, il a vraiment envie d'y aller, et elle dit « Non, c'est pas possible, il partira pas. » On lui dit « Shlomke, Melecheli, j'ai une surprise pour toi. » Et elle l'amène dans leur chambre, et elle a fait faire par tous ces artistes égyptiens, elle a peint une fresque sur le plafond de la chambre, une fresque qui raconte toute l'histoire de l'Égypte, la mythologie, les dieux égyptiens, ce que tu veux, machin. Et bon, il semblerait que esthétiquement c'était très joli. Et donc, bon, bah voilà, il s'allonge à côté d'elle, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais la Gemara, elle passe directement au lendemain matin. Et le lendemain matin, bah, tout le monde attend. Le soleil se lève. On attend pour l'inauguration du Beth Amikdash et on ne peut pas commencer parce que celui qui a la clé du Beth Amikdash, c'est Shlomo, le roi. Et puis, de toute façon, tu ne vas pas commencer sans le roi. Seulement, il fait dodo. Et personne n'ose aller le réveiller. 1 heure, ça passe. 2 heures, ça passe. 3 heures, ça... Oh ! Vous n'êtes jamais demandé pourquoi dans la Mishnah, on dit jusqu'à quelle heure on peut faire le schéma ? Jusqu'à la 4e heure parce que c'est l'heure où les Béné Melachim se réveillent. C'est Shlomo. Parce qu'au bout de la 4e heure, les gens, ils en ont marre. Ils disent, bon, il faut aller chercher la seule personne qui pourra réveiller Shlomo. C'est qui ? Sa mère. Sa mère. Qui c'est qui n'a pas peur ? C'est sa mère. Donc, on va chercher Batsheva. Et on lui raconte l'histoire. Et Batsheva, elle rentre dans la chambre. Elle ouvre les rideaux. Elle balance un verre d'eau à Shlomo. Enfin, je sais pas, j'affabule là. Mais elle le réveille. Et là... Elle lui dit, un Miché Bérard que seules les mamans savent faire. Et si ton père, il te voyait ? Il commence à lui dire, mais ton père, c'était un vrai tzadik. Lui, il servait à Kadosh Baruch Hu. Regarde-toi, mais regarde-toi, tout le monde t'attend pour le Beth Amikdash. Et toi, tu dors à côté de celle-là. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle lui passe un savon. Je ne sais pas si elle, elle s'est réveillée, mais lui, il s'est réveillé. Et le Midrash nous raconte qu'il regarde sa femme, il regarde sa mère, il re-regarde sa femme. Il regarde sa mère, il re-regarde sa femme, et finalement il regarde sa mère et il dit « Eshet Ra'il Mi'imtsa ». Oui, mesdames, Shlomo HaMelech a écrit « Eshet Ra'il » pour sa mère. Ainsi donc, vos maris, lorsqu'il vous regarde dans les yeux et qu'il chante Echetraïl, n'oubliez pas qu'il pense à sa mère. Donc soit il le sait pas, s'il ne le sait pas, lui dites pas, c'est pas la peine. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, ça ne répond pas à c'est quoi Sheker Achen ve'evel ayofi. Bemet Sheker Achen. Achen, c'est Sheker. Mazechen, la grâce, c'est gratuit. Chen, ça vient du mot chinam. C'est bemet lo yafé. Donc c'est Sheker Achen. Vous savez toutes que ce que ça veut dire, vous avez été en Shidour, vous serez en Shidour. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites d'un garçon qu'il est. Ouais, il est mignon, quoi, il y a quelque chose. Ça veut dire clairement qu'il n'est pas. Hein, quand on dit qu'il est gentil, ça veut dire quoi? Hein, je ne vous dirai pas ce que les garçons ils disent, ça ne se fait pas. Mais... Quand vous dites d'un garçon qu'il est gentil, ça veut dire clairement qu'il n'est pas beau. C'est-à-dire, donc, Sheker Achen, Bemet, Achen, c'est Sheker. Aval la Yofi, justement, il n'a pas dit c'est Sheker. Il a dit Vehevel la Yofi. Mais c'est Hevel.
Le deuil.
Le deuil? Non. Hevel, c'est. On traduit vanité. En fait, Hevel, c'est la fumée qui sort de la bouche. Hevel pi. Ok? Quand tu fais. C'est Hevel. C'est la fumée. Alors, pas forcément que de la bouche. Quand tu fais cuire quelque chose, la fumée qui sort de la casserole, c'est Hevel. Donc, en fait, Hevel, c'est l'expression extérieure de ce qui se cuisine à l'intérieur. En d'autres termes, Ayofi ou Hevel. Si tu mets une casserole sans rien dedans, il n'y aura pas de fumée. Si tu mets quelque chose, l'homme chané quoi, et que tu le mets sur le feu, ça va produire de la fumée. En d'autres termes, Ayofi, c'est Hevel. C'est pas péjoratif. Hevel, c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, on comprend pourquoi dans le Tanakh, on nous dit de certaines personnes qu'ils étaient beaux ou belles. Comment tu sais que Rivka Imenu elle est tzadika? Parce qu'il y a marqué qu'elle est belle. C'est pas qu'elle est belle à l'intérieur. Elle est vraiment belle à l'extérieur, esthétiquement parlant, selon les critères de l'époque. Elle est mamash belle. Mais quand on est en Zman Shel Geoula, quand on est en Zman Shel Shrina, il y a une at'ama, il y a une correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur reflète l'intérieur. Dit Sefer Zohar, à cause de Shvirat HaKelim, à cause de l'éloignement de la Shrina, eh bien, quand on est en exil, il peut y avoir des gens beaux à l'extérieur et pourris à l'intérieur, et des gens pourris à l'extérieur, mais très beaux à l'intérieur. Mais ce n'est pas du tout l'idéal. L'idéal, c'est oui d'avoir une atama, une osmose entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, vous commencez à comprendre quand est-ce que l'esthétique, on lui donne une part super importante. Ben, c'est quand on est dans une époque où on peut dévoiler l'intériorité qui est reflété par l'extérieur. Mais quand on est bagaloute, on ne peut pas. Donc quand on est bagaloute, on va mettre en avant le côté « non, sois pas beau ». Et les seuls endroits, les seuls trucs qui seront beaux, c'est enfermés à l'intérieur de la maison qui sont directement liés à la Torah.
Mais pourquoi on ne peut pas ?
Parce qu'en galoute, on n'arrive pas à montrer que l'extérieur et l'intérieur sont en accord. Pourquoi ? Parce que l'extérieur est dominé par l'égoïme. Comment tu peux dévoiler Akadosh Baruch Hu dans un monde comme celui-là ? Donc on n'y arrive pas, on n'a pas la force de... Donc, il n'y a plus d'osmose, donc on ne va pas mettre en avant ceci. Aussi, pourquoi ? Parce que qui met en avant l'esthétique bagaloute ?
Les Grecs.
Les Grecs à la base, mais j'allais dire l'égoïme de manière générale. Mais tu as raison, les Grecs. Et on va y revenir à nos Grecs. Maintenant, regardez. Il nous dit ici, je saute deux secondes, je vois que le temps passe. Je saute la 9 et la 10. Ouais, vous savez quoi ? Je vais deux secondes directement à la 13. On va revenir à la 12 juste après. Dans la source numéro 13, on nous dit, vous savez que Noach, il a trois enfants. Shem, Ham, Veyefet. Shem, ça veut dire quoi ? Le nom. Qu'est-ce que ça veut dire le nom ? L'objectif, le but, la raison d'être. Ham, c'est un show. Ok, on va le laisser de côté aujourd'hui. Et Yefet, ça veut dire quoi Yefet ? Oui, mais il n'y a pas marqué Yefet. Il s'appelle Yefet, il ne s'appelle pas Yefet. Yefet, ça ne veut pas dire beau. Ça veut dire Yafte en arabe, en araméen, ça veut dire l'expansion. Le fait de vouloir conquérir des territoires. Yefet, c'est celui qui a cette tentation à grandir, à s'étendre. Quel rapport avec le Yofi ? Eh bien, quelle est la première chose qui conquit chez moi, c'est mon aspect extérieur. L'aspect extérieur, c'est la première chose que tu vois de loin. La reine a yofi, nous dit à Kadosh Baruch Hu, yafiefuto shel yefet, ye beoale shem. C'est ce qu'on dit dans le pasouk. Yaft Elohim le yefet, veishkon beoale shem. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'esthétique, mais qu'elle soit au service de quoi ? De l'objectif. Et c'est là qu'on va avoir un problème avec nos amis les Grecs. Bien sûr que les Grecs, ils ont mis en avant l'esthétique. Ah ouais, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que l'un des summums de l'esthétique grecque, c'était dans leur art sera de la sculpture. Les sculptures grecques, c'est la folie. Tu vas dans n'importe quel bon musée en Europe, tu vas avoir des sculptures grecques. Après, ça a été repris par le monde romain, par le monde chrétien, ça va, bah. Maintenant, dites-moi, les sculpteurs grecs, ils sont bons ou ils sont pas bons en sculpture ? Franchement, ils sont très bons. Ils sont capables de te faire du détail de la folie. Ils te font les veines, ils te font les trucs, machin, des détails de folie. Pourtant, vous aurez remarqué qu'il manque un truc dans les statues grecques.
Des yeux.
Il y a des yeux. Alors, des habits, ça c'est parce que... c'est un choix. C'est pas qu'ils savent pas le faire, tu vois. C'est un choix. Non, il manque un truc. Il y a des yeux. Chaque statue grecque a des yeux. Mais... pas les paupières.
C'est un truc avec les yeux.
Ouais, c'est un truc avec les yeux. Il manque le noir dans les yeux, la pupille. Après, je ne sais pas s'il y en a qui font ophtalmo, qui font truc, la pupille, la cornée, le machin. Bon, il manque le truc qui fait que l'œil n'est pas tout blanc. Tu regardes toutes les statues grecques, l'œil il est blanc. Il manque ce petit truc-là. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas le faire. Ils savent faire des détails de folie, mais volontairement, ils ne le font pas. Et on sait la vie de l'âme. Qu'est-ce que ça représente, ce truc-là ? Vous savez comment ça se dit en hébreu ? Ah, Ishon. Pourquoi ça s'appelle Ishon ? Vous savez ce qu'il dit Rashi ? Extraordinaire. Rashi, il dit, ah, Ishon ? Ah ben, c'est pas shoot. Parce que quand tu regardes dedans, tu vois un Ishkatan. Donc, c'est Ishon. Non, c'est qui que je vois en vrai ? C'est le reflet de moi. Ou alors, c'est qu'en fait, j'arrive au travers de ces yeux-là de voir jusqu'au très profond de sa neshama, de son Ishkatan chez Ubifnim. Disait Emmanuel Levinas, je ne dis pas que l'autre est Dieu. Je dis que dans le visage de l'autre et dans son regard, je peux voir le dévoilement de Dieu. Mes amis, c'est quoi l'esthétique ? On a dit c'est l'expression extérieure. Bien sûr que c'est fondamental. Mais dans une époque où tu n'arrives pas à aller de l'extérieur, de l'esthétique extérieure, tu n'arrives pas à rentrer jusqu'à l'intériorité de l'âme, alors on va te dire dans le judaïsme, tu sais quoi ? Alors on ne va pas s'en occuper. Parce que esthétique pour esthétique, c'est les Grecs. Mais lorsque, grâce à l'esthétique, on peut arriver jusqu'au tréfonds de l'âme, alors oui. Alors oui, 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 oui. Et on met l'esthétique à fond. Mais ça, ça sera uniquement lorsque on est en mode Géoula. Ainsi, c'est ce que va nous écrire ici le Rav Kook dans la source numéro 12. Dit le Rav Kook dans Rota Techia, « Kshekoach Israël gadol, venishmato meira bekirbo, lorsque la force d'Israël est grande, et que sa neshama éclaire en son sein, Beofa ve'anafa ve'ma'asim metukanim, l'autre dans ses actions, Besidur male, lorsqu'on est bien organisé en tant qu'Am Israël, Bigdusha be'yichud ou bivracha, Bigmikdash ou be'memshala, donc dans un monde idéal, Benevoa ve'chokma, Az ha'itrachavut letzad achol, à ce moment-là, le fait de grandir, de s'élargir au domaine du chol, le innuge achushim aruchanim vaagashmiim, dans le kif spirituel et physique, le atzatza chadira penimit le tor chayem shel amon haamim ou leumim shonim, de s'intéresser à tout ce que les autres peuples ont pu produire, le mifaleem vesifruteem, dans leur littérature, leur culture, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. ותחום הארוך הוא י"ב מיל כמחנה ישראל כולו. Lorsque Am Israël il est au top, alors grandir, si tu veux, nous on parle de l'esthétique ce soir, mais on pourrait parler de plein d'autres domaines. Ça ne peut que lui faire du bien, parce que ça va lui permettre de grandir dans sa compréhension du divin, dans sa capacité à dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que un juif qui a envie de transmettre un message du judaïsme aujourd'hui dans le monde. Il y arrivera mieux s'il est tout petit, tout moche et qui fait peur, ou s'il en jette. En mala asot. Parce que aujourd'hui, Am Israël, il peut redevenir quelqu'un qui donne de l'importance à l'esthétique, parce qu'on a retrouvé une identité forte, et donc on peut, grâce à cette esthétique, arriver à la Neshama. Donc en fait, est-ce que le judaïsme, il est pro-Yofi, ou est-ce qu'il n'est pas pro-Yofi ? Ben, ça dépend quand et ça dépend où. À Yom, aujourd'hui, eh bien enfin, Baruch HaShem, on redevient un peuple qui est beau. Ah, vous avez mis, on a toujours été beau. Oui ? C'est ce qu'on disait juste avant que vous arriviez. On a dit ça. C'est la preuve qu'elles étaient tzadikot. C'est justement ça. Parce qu'à leur époque, il y a cette atama entre l'intérieur et l'extérieur parce qu'il y a la shrina. Donc exactement ça. Maintenant, aujourd'hui, je dis on est redevenu beau. Alors vous allez me dire, on a toujours été beau, c'est pas vrai. Non. Comment je sais qu'on est redevenu beau ? Eh bien, je regarde le regard des ennemis d'Israël. On appelle ça des caricatures. Je travaille beaucoup dans l'univers de la Shoah, je guide en Pologne, les amis, prenez des bonnes vieilles caricatures antisémites jusqu'à l'époque de la Shoah. Le juif, il fait peur. On est représenté comme étant un truc qui fait peur à voir. Aujourd'hui, c'est quoi les caricatures antisémites ? On est représenté comme le nazi qui opprime les Palestiniens, bon ça d'accord, je veux bien, mais on nous représente comme étant beau gosse. C'est-à-dire même dans le regard de celui qui est contre, Am Israël est redevenu beau gosse. Alors on va te dire, c'est il se la pète, et ce que tu veux, machin, on s'en fiche. Mais met Am Israël chazar la yofi. Pourquoi ? Parce que Sheker Achen veut emet a yofi. C'est kvar lo hevel a yofi. C'est emet chez Am Israël chazar liot yafé. Et donc ce n'est pas du tout quelque chose qui risque de nous faire tomber. Ma belle-sœur, elle a travaillé un an à Superpharm. Elle m'a dit qu'elle a rencontré une dame incroyable qui venait acheter tous les mois, se refaisait une batterie de produits, mais les trucs les plus chers, les plus genre classe, le maquillage le plus tip-top, machin, nanana. Et un jour, ma belle-sœur m'a dit quoi ? Elle m'a dit, j'étais obligé de lui demander quoi. Parce qu'elle ressemblait à rien, cette fille. Genre, elle était habillée en sac poubelle, la méhadrine, quoi. Ça veut dire. Donc, je lui dis, je suis désolé, il faut vraiment que je lui pose la question parce que vous achetez des trucs qui sont quand même. Ça marche pas, quoi. Elle dit, non, pas du tout. Quand je rentre dans ma maison, je vais me changer, je me maquille et tout ça, machin, et je fais ça pour mon mari. Mais quand je sors de la maison, j'enlève tout et machin. C'est quoi les doigts ? Pourquoi tu fais ça ? Non, j'ai pas envie que dehors, machin. Alors, je peux comprendre l'idéal, l'idée derrière tout ça, qu'on a un vrai problème dans notre société occidentale et c'est un vrai problème. Ok, je ne fais, fais pas une thérapie de couple parce qu'il n'est pas là le couple. Mais c'est un vrai problème, on en est tous conscients. On sait tout ce qui se passe quand on a passé une journée difficile au travail, machin, on est fatigué, on est mort et on rentre à la maison. On sait ce qui se passe. On sait que la rapidité avec laquelle on passe en jogging, on le sait. Je veux dire, c'est pas vrai que pour les femmes, c'est vrai pour les hommes encore plus. Hein. Je veux dire, la rapidité avec laquelle le t-shirt apparaît et laisse apparaître un ventre qui, Baruch HaShem, n'a pas fait de sport depuis longtemps, je veux dire, on la connaît. Maintenant, d'un autre côté, on sait aussi comment le matin, quand on part de la maison, on est tip-top. Alors, c'est sûr que c'est pas bon pour le couple. Pour le couple en général. Que elle se fait très belle pour sortir de chez elle le matin, parce que normal. Et donc, elle va passer toute sa journée avec des hommes qui sont bien habillés, beaux gosses, machin, ce que tu veux. Elle aussi très belle. Lui, il va aussi travailler. Et il se fait beau pour aller travailler. Et il va passer toute la journée avec des femmes qui sont bien habillées aussi, ce que tu veux. Et quand il rentre à la maison, elle a passé sa journée à voir des beaux gosses. Lui, il a passé la journée à voir des belles gosses. Il rentre à la maison, il se met en mode pyjama, en mode jogging. C'est sûr que ça influe sur le dimion. C'est évident. Et c'est un vrai problème de société. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cela. C'est pour ça que je ne suis pas un adepte des 37 secondes pour passer en pyjama quand tu passes la porte de la maison. C'est l'onachon. C'est l'onachon. Il n'y a pas de raison que je me fasse beau pour les autres et pas pour ma femme. Il n'y a pas de raison qu'elle soit belle pour les autres et pas pour moi. C'est important dans la relation. Mais Donc je comprends le rationnel de cette dame qui dit non, moi dehors, mais c'est exagéré. Pourquoi c'est exagéré? Parce que c'est pas parce qu'à la maison, on a dit, à la maison tu vas pas être moche, mais dehors tu peux pas non plus être moche, parce que tu représentes quelque chose dehors. Tu représentes Am Israël qui a retrouvé sa grandeur. Et que tu le veuilles ou pas, lui ou elle, quand elle marche dans la rue, c'est Itgalmut Akadosh Baruch Hu Beolamo. Tu es la représentante d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc, ce n'est pas seulement un kavod que tu dois être habillé sans être tout sale et tout ça, machin. Mais le monde d'Akadosh Baruch Hu, il est beau. Et je termine par vous rappeler ce qu'on a dit, que Rabbi Shimon, il a dit, si tu t'arrêtes de ton étude pour dire, ah, il est beau cet arbre-là, on a dit, il est passible de mort. Je reviens juste avec ça parce que c'est ouf ce qu'il dit. Alors maintenant, venez, on va comprendre ce qu'il dit pour de vrai. À aucun moment, chas v'shalom, Rabbi Shimon n'est pas quelqu'un qui transgresse la halakha. Or, il y a une halakha qu'en Nissan, on dit birkat à... Pour dire birkat à ilanot, il faut bien s'émerveiller de l'arbre. Si tu l'as pas vu, l'arbre, tu peux pas faire birkat à ilanot. Or, Rabbi Shimon Baruch, il n'est pas contre birkat à ilanot. Donc, Rabbi Shimon, il a dit autre chose qu'on a mal compris. Rabbi Shimon Baruch, il a dit « Kol ame'aler baderer veshone » Celui qui avance en chemin comme ça, il étudie. Vemafsik mimishnato veomer manae ilanze. Celui qui s'arrête de son étude pour dire ah, comme il est beau cet arbre, celui-là il est passible de mort. Keilu. Parce que si pour toi, mettre l'esthétique, pas plus importante, ça s'appelle, si pour toi, voir la grandeur de l'esthétique, ça s'appelle s'arrêter de ton étude, c'est-à-dire que tu sépares le monde de l'extérieur au monde de l'intérieur. Celui qui sépare l'extérieur de l'intérieur, Keilou, Mitraya Venafsho, l'obémet, on va pas le tuer. Mais il a rien compris. Mais celui qui dit Manae, Ilanze, et que chez lui, ça s'appelle l'imout Torah, Zekodesh Kodashim. Et c'est celui qui va faire Birkata Ilanot. Donc en fait, si tu arrives à mettre le monde de l'extérieur au diapason, en osmose, avec le monde de l'intérieur, alors tu as réussi à dévoiler Akadosh Baruch Hu à l'extérieur du Beth Amidrash dans le monde. Et c'est oui, ça le rôle du peuple juif aujourd'hui. On est redevenu beau pour pouvoir réapprendre au monde que l'extérieur n'est pas coupé de l'intériorité, au contraire, l'extérieur reflète l'intériorité. Donc, est-ce que le judaïsme est pour l'esthétique? Quand il peut exprimer la relation des deux, oui. Lorsqu'il ne peut pas l'exprimer, la réponse est non. Le Beth Amikdash s'appelle... C'est quoi le nom, le surnom du Beth Amikdash dans les Tehillim? Noyo Shel Olam. La beauté du monde. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y avait une beauté intérieure. C'est parce que Béhémet, nous disent nos sages à propos du Beth Amikdash de Hérode, il détestait Hérode. Mais il dit celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie. Et donc nous sommes, Baruch HaShem, la génération qui va voir la reconstruction du Beth Amidrash, Noyo Shel Olam, au travers de la beauté du peuple juif retrouvée, Bimera Beyamel. Amen. Chazak ou Baruch.